Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mars et avec Arnaud Decazes, Jean-Yves Rabault et Camille Rutherford, nous allons parler des Hommes du Président, un film que vous avez choisi sur la page Facebook de fin de séance. D'ailleurs, j'en profite, n'oubliez pas de liker la page Facebook, de la partager, de dire à tout le monde que il faut écouter ce podcast dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Vous nous aiderez beaucoup. Et puis également, voilà, comme je le répète souvent, d'aller nous noter sur le recensement d'iTunes, puisque on peut y mettre 5 étoiles et des petits commentaires sympas. Et c'est grâce à ça que ça permet au podcast d'être connu et recensé sur Google. Donc n'hésitez pas. On a également le Twitter et l'Instagram de chaque petite photo, chaque petite affiche et poster des films que l'on analyse. Et j'ai totalement oublié de me présenter. Hashtag animateur de merde. Je m'appelle Areski Sugar et je fais un peu de stand-up. Donc je vais en profiter pour faire un peu d'auto-promo puisque le jeudi 23 mars, je serai à l'université Paul Sabatier à Toulouse pour le What the Fuck Comedy Club qui est présenté par l'association OEEO, qui est une association d'étudiants en orthophonie, qui va utiliser justement les profits de cette soirée. Alors, c'est que 5 euros la place, je vous rassure, mais qui va utiliser donc ces profits pour un projet de solidarité internationale, hein, probablement pour aider des petits Africains comme moi à mieux parler. Et également, je serai le vendredi 24 mars, donc le lendemain, à 21h, au Centre culturel Henri Desbalz, pour une soirée exceptionnelle, hein, organisée comme tremplin d'humour dans le cadre des Fous Rires de Toulouse. Donc c'est une sorte de mini-concours, j'imagine, de gens qui veulent le faire rire plus que les autres, parce que ils veulent gagner un petit peu plus d'estime de soi. Donc merci de venir et de m'applaudir, clairement, hein. Allez, sans plus attendre, on va pouvoir passer au podcast Les Hommes du Président. Bonne écoute à tous, gros bisous. Des quatre personnes qui ont voté, qui font tous partie de la famille de Jean-Yves.
Ce qui est vrai, hein.
Ce qui est vrai.
Écoutez, je tiens à dire, d'abord, je me félicite pour cette victoire aux primaires fin de séance, déjà, dans un premier temps. Et deuxièmement, j'aimerais dire que voilà, j'aime ma femme. Voilà, j'aime ma femme. Et je tiens à dire aussi qu'elle n'a absolument pas été rémunérée pour ce travail. Elle l'a fait. Voilà, tout ce que j'avais à dire et victoire cinglante hein, puisque 4-0-0-0 voilà,
donc aujourd'hui on va voir All the President's Men, les hommes du président en français, un film de Alan G. Pakula avec Dustin Hoffman, Robert Redford, Jack Warden entre autres. C'est un film qui est sorti pardon, j'ai l'impression que j'atteins la puberté là. C'est un film qui est sorti le 22 septembre 1976 en France. Je pense qu'il a dû sortir en début d'année aux États-Unis. Le synopsis du film, alors je vais vous le lire tel qu'il est sur Allociné. En 1972, 5 hommes sont arrêtés pour avoir pénétré par infraction dans l'immeuble du Watergate, où se situent les bureaux du Parti démocrate. Alors que l'affaire est présentée comme un simple fait divers, deux journalistes du Washington Post, Carl Bernstein et Bob Woodward, décident de pousser l'enquête qui les mènera vers les plus hautes sphères du gouvernement. Pour replacer peut-être effectivement l'historique de l'affaire du Watergate dont on connaît le nom mais peut-être pas les tenants, les aboutissants, c'est quand même une enquête qui a permis de pousser le président actif Richard Nixon à la démission puisqu'il a été effectivement impliqué dans cette affaire d'écoute de ses opposants politiques. Donc c'est vrai que ce film tiré d'une histoire vraie, même d'ailleurs tiré du roman des deux vrais journalistes qui ont donc mené cette enquête, a permis de relater un petit peu tout ça. Alors comme tu disais Arnaud tout à l'heure, c'est vrai que ça ne relate pas toute l'histoire, mais simplement les, je crois, les 5 premiers mois ou les 7 premiers mois.
Grosso modo,
après l'enquête.
Ça relate l'enquête de Woodward et Bernstein, mais en fait, c'est que le début de l'histoire du Watergate, puisque après, suite à cette enquête, il y a eu des procès qui se sont ouverts.
Effectivement.
Et ça a duré jusqu'en 73 ou 74, non, je crois, même quelque chose comme ça. Enfin, ça a traîné.
Ça a traîné un petit peu, effectivement.
Et le film fait le choix de pas embrasser complètement cette histoire et de se concentrer sur ça, quoi.
Sur les journalistes, effectivement. Un petit clip.
Gorge Profonde a dit que la vie de certains était en danger.
Oui.
Qu'est-ce qu'il a dit d'autre ?
Que tout le monde est mouillé dans l'affaire.
Vous avez vu les derniers résultats du sondage d'opinion ? La moitié du pays n'a jamais entendu le mot de Watergate. On s'en fout comme d'une guigne. Vous devez être complètement crevé. Bien sûr, c'est normal. Entrez chez vous. Prenez une douche ou un bain chaud, puis reposez-vous 20 minutes. Une fois d'attaque, rappliquez dardard. On nous fiche des bâtons dans les roues et c'est par votre faute. Il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en jeu, excepté le premier amendement de la Constitution, les droits de l'homme, la liberté de la presse et peut-être même l'avenir des États-Unis. Tout ça n'est pas très important. Mais si jamais vous refoutez le bordel, je vous préviens, ça bardera. Au revoir.
Donc, qu'est-ce que vous avez pensé des Hommes du Président ? Est-ce que déjà, c'est un film que vous aviez déjà vu, justement, avant, récemment ou pas ? On va commencer par Camille pour t'obliger à parler.
Bonjour à tous, je m'appelle Camille, je suis une pote à Arnaud et je me suis incrustée dans cette conversation de fin de séance. Alors je tiens à dire que je n'avais jamais entendu parler de ce film, merci.
Ni de ce podcast.
Si, je suis fan. Et je dis pas ça pour faire ma HQ. J'avais jamais entendu parler de ce film ni du réalisateur. Et j'ai adoré le film, surtout parce que Robert Redford est trop beau.
C'est vrai qu'il est beau gosse dedans.
Ouais. C'est vrai qu'il a un putain de style avec sa mèche de cheveux blondinette à Brad Pittienne.
Exactement. Ouais. On pense tellement à Brad Pitt quand on le voit jeune, c'est fou.
Beau gosse.
Alors moi, j'aimerais juste dire un truc qui est assez marrant. Je sais pas dans quel cas les gens sont comme ça, mais moi j'avais vu La Classe Américaine avant de voir ce film. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est assez long de se détacher de l'image de Peter et Steven.
Alors, juste, il faut expliquer, La Classe Américaine, c'est un film de détournement qui reprend des extraits de vieux films américains pour les redoubler, pour leur faire raconter n'importe quoi. Et vraiment, la matrice du film, le film qui est le plus présent et qui sert de fil rouge à tout ce détournement, c'est Les Hommes du Président.
Et du coup, pour toi, Jean-Yves, c'était surtout Peter et Steven, quoi.
Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est très drôle parce que moi, j'ai vu et revu La Classe Américaine. Donc, il y a des moments où je m'attends à des transitions qui ne viennent jamais. Et du coup, je suis très déçu. Mais du coup, finalement, je suis obligé de me mettre dans le film. Et après, ça, c'est pour la blague. Parce qu'après, une fois que tu rentres vraiment dans l'histoire, tu passes assez vite outre ça. Mais c'est assez étrange d'être habitué à quelque chose. D'ailleurs, je sais pas si. Est-ce que c'est vraiment. Les doubleurs, les mêmes, c'est les mêmes en VF.
Ce sont les mêmes doubleurs en VF, ouais.
Donc je pense qu'en VF, ça doit être abominable de voir ce film en VF. Ça doit être impossible, quoi. Si t'as vu La Classe Américaine,
ouais, c'est clair. Je te dis, mais c'est pas ça qu'il dit dans cette scène, normalement. Oui, du coup, attends, c'est un film que t'as vu du coup après la Classe Américaine, mais est-ce que c'était un film que t'avais déjà vu avant de le revoir justement pour ce podcast?
Oui, je l'avais déjà revu et je l'avais adoré comme je l'ai adoré à nouveau ce moment-là, pour plein de raisons, mais j'aime bien le côté documentaire que ça, j'aime bien le côté rentrer dans la vie de ces deux journalistes et puis vraiment ce petit travail d'orfèvre à l'ancienne un peu, ça a un côté un petit peu rudimentaire, tu sais, le petit calepin, le petit téléphone, on gratte du papier, ça ravive des passions de journalisme et ça, ouais. Et je trouve que c'est vraiment le film qui donne envie de faire ce job, quoi. Je trouve ça vraiment, ça vend du rêve, quoi.
Ouais.
Bah, surtout au début quand il dit I'm just going to polish it.
Ouais.
Au début, il y a un dialogue, c'est trop, ça donne trop envie de savoir écrire des articles.
Ouais.
C'est la phase du polishment.
C'est vrai que c'était pas mal aussi, enfin, bon, pour le coup, ça relate l'histoire vraie, mais c'était pas mal d'avoir vraiment ces deux personnages différents qui sont quand même des journalistes beginners, Mais il y en a un qui est beaucoup plus beginner que l'autre, et donc c'était intéressant de voir comment l'un qui connaît peut-être un peu plus les rouages va avoir des intentions, tu sais, plus émotionnelles, et l'autre va être plus axé sur les faits et absolument la recherche des faits. Et au final, je trouve que, alors moi, c'était effectivement pas un film que je découvrais. Ça fait partie de la... J'ai l'impression que tous les films Oldies but Goldies, c'était que des films que j'avais vus quand j'étais plus jeune sur ciné-cinéma, tu vois. Ouais, clairement, je l'avais aimé. Je pense que je l'ai un peu plus, encore plus apprécié à ce visionnage-là, parce que forcément ça me fait penser à des choses récentes dans l'actualité, ou même dans le journalisme actuel, ou même justement dans les écoutes actuelles. J'ai adoré le rythme en fait de l'enquête, parce qu'en fait tu pourrais être noyé dans plein de noms, plein de dans un suivi de je vais voir telle personne, de fausses pistes ou des choses comme ça. Mais justement, ça nous fait vraiment vivre la minutie du travail de ces deux gars qui, quand ils devaient rechercher ou le numéro de quelqu'un, n'avaient pas Google, quoi. Et tu vois, et tu te dis, tu sais, à un moment, il y a une scène où il prend un annuaire et ne serait-ce que savoir quel annuaire tu dois prendre pour savoir que c'est l'annuaire du Minnesota, de Minneapolis, pour trouver le gars. Et après, il le trouve et toi, t'es là, tu fais « Yes !» Bien wesh.
Arc de notre, oui, mais c'est marrant justement de voir tous ces mécanismes qui aujourd'hui se font en accéléré, c'est-à-dire à taper le nom sur Google et t'aurais le numéro tout de suite. Mais c'est marrant de le voir comme ça disséqué dans un film. Et pour disséquer ça, t'es obligé de faire des films d'époque, j'ai l'impression. C'est le genre de choses qui serait très difficile de montrer aujourd'hui, cette recherche par Google, quoi. Enfin, ça serait beaucoup trop beaucoup trop anecdotique.
Ouais, il y a aussi, il y a quand même, c'est vrai que tu disais on rentre dans la vie de ces deux personnes, Jean-Yves, mais c'est vrai que, enfin, il y a pas du tout de vie privée en fait de ces gens-là. On voit vraiment que leur travail, et je trouve que pour justement que des successions d'une seule enquête. Et que des successions de dialogues au final, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'action dans ce film, il n'y a que des dialogues, que des séries de dialogues. Et moi je trouve que le réalisateur gère tellement bien ce qui se passe, parce qu'il y a des scènes où, tu sais, il y a tout le temps la bifocale là, où tu vois l'arrière-plan et le premier plan qui sont nets. Et c'est tellement beau, quoi, parce qu'il y a des scènes où, tu sais, où tu vois par exemple le fait que Nixon vient juste de gagner les primaires républicaines, et que derrière tu vois Robert Redford à la machine à écrire qui est en train de travailler à le démonter, tu sais, et tu, enfin, il y a plein de résonances dans ce discours là en fait, tu vois, quelque part le réalisateur nous parle même quand il y a pas de dialogue, et ça j'ai trouvé ça très cool. Et aussi la chose très bien que j'ai adoré dans ce film, c'est l'acting, parce que vraiment ça sonne tellement naturel, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui coupe la parole de quelqu'un d'autre, je me dis, ah putain, mais il joue trop bien, parce que je vois pas les petits tics hollywoodiens qu'on pourrait voir dans un film récent ou dans autre chose, tu vois, ou dans la recherche de faire un accent à la Snowden, tu vois, comme Gordon Levitt.
J'aimerais revenir sur plusieurs éléments dont tu as parlé. C'est déjà, en fait, je suis d'accord, et c'est un choix que j'aime beaucoup, le fait de montrer ces deux journalistes presque comme des moines soldats, quoi, quelque part. C'est-à-dire que les tout petits éléments qu'on peut avoir de leur vie privée, c'est leurs appartements, où on a vraiment l'impression qu'ils ont pas de famille, quoi, que c'est qu'ils sont uniquement consacrés à la tâche, contrairement à tous les gens en fait qu'ils interrogent. Puisque tous les gens qu'ils interrogent, en fait, on rentre dans leur vie par la vie privée, pour ensuite arriver petit à petit à leur travail qui les a amenés à participer à ce scandale du Watergate. C'est-à-dire que il en parle à un moment, par exemple, à un enquêteur du FBI. Je sais plus lequel c'est. Il me semble que c'est Bernstein, mais je suis pas certain. Ouais. Qui parle avec le directeur du FBI et qui lui dit, en fait, le problème de votre enquête, c'est que vous les avez interrogés au boulot.
Ouais.
Là où leurs supérieurs peuvent effectuer des pressions sur eux pour ne pas qu'ils parlent. Et où il dit, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé les voir à la maison, là où ils seront un peu plus à l'aise. Et c'est vrai que ce film, c'est une succession de ça. C'est une succession d'appartements privés dans lequel ils rentrent Et c'est toujours très intéressant aussi de voir la manière dont ils rentrent. C'est-à-dire, ils utilisent des techniques presque de VRP, quoi, de vendeur en porte-à-porte. Et il y a une scène assez géniale du film. Je pense que ça doit être la plus longue interrogation de témoin du film où il rentre dans la maison d'une femme qui travaille pour le CREEP, le Committee to Re-Elect the President, qui est donc ce comité, en fait, qui a une cellule qui a été montée expressément pour essayer de mettre des bâtons dans les roues du Parti démocrate. Et la manière dont il rentre dans cette maison, c'est assez marrant parce que t'apprends que c'est deux sœurs qui vivent dans cette maison. Et pour entrer dans cette maison, il demande à boire un café. Et à chaque fois, en fait, pour rester, il utilise ce prétexte du café où il finit par en boire des dizaines, où on le voit après complètement à cran juste après la scène parce qu'il a trop de caféine dans le sang. Et la manière dont il établit, en fait, les relations qui existent entre ces personnages, je trouve ça brillant à la fois dans l'écriture et dans l'acting. C'est-à-dire que c'est la sœur de cette femme qui travaille pour le gouvernement qui laisse rentrer ce journaliste et qui insiste pour qu'il reste. Et donc, en fait, en filigrane, on comprend sûrement que sa sœur veut qu'elle parle. Elle veut qu'elle parle, mais on imagine sans doute qu'elle a eu des heures et des heures de discussion avec sa sœur, qui en pouvait plus de sa vie à cause de ce qu'on lui faisait faire au boulot. Et donc, en fait, sa sœur décide de faire entrer ce journaliste en se disant ça va lui faire du bien. Et c'est toujours comme ça que sont construites ces scènes. Moi, j'adore ce fait que justement la vie privée, il y en a énormément dans ce film, mais c'est toujours celle des témoins qu'on va interroger. Et je pense que ça participe beaucoup à cet acting formidable où tu dis que ça paraît très très réaliste, mais c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun de ces personnages qui sont clichés, en fait. C'est-à-dire, ça va pas être le méchant manipulateur, c'est-à-dire, il y a toujours un mélange de culpabilité, d'autres choses. En fait, c'est assez complexe, quoi, la manière dont tous ces caractères sont forgés, et finalement, les personnages dont on apprend le moins, c'est les deux journalistes principaux, puisque même leur patron finit par lâcher des histoires de sa jeunesse à certains moments, c'est-à-dire on en sait plus sur leur patron qui est un personnage secondaire
que sur eux-mêmes.
La secrétaire qui est l'ex d'un gars...
Tout à fait, ouais, la secrétaire qui...
Je me souviens plus son prénom.
Je me rappelle plus son prénom, mais qui révèle qu'il y a un politicien qui a écrit la Canouk Letter. Qui est une lettre, en fait, qui a empêché Muskie, un candidat à la primaire démocrate, d'accéder, en fait, aux élections présidentielles. Et en fait, cette lettre qui était soi-disant envoyée de quelqu'un qui aurait assisté... Enfin, c'est peut-être pas le moment de parler de ça, je sais pas exactement. Mais grosso modo, en fait, c'est un faux qui a été fait par l'équipe de Nixon pour faire en sorte de décrédibiliser un candidat à l'élection présidentielle.
Ouais.
Et parce que c'est ça qui est intéressant dans ce film, en fait, c'est qu'au départ, on part d'un fait divers assez simple. Ouais. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on retient généralement du Watergate, c'est-à-dire les écoutes illégales, et ça va beaucoup plus loin que ça, quoi, en fait. Et ce film montre. Ils sont surpris en permanence de découvrir, en fait, que ça va toujours plus loin que ce qu'ils imaginent, quoi.
Ouais. D'ailleurs, enfin, il y en a un qui aimerait bien que ça aille très loin. L'autre en a la petite idée, mais il veut vraiment s'en assurer, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, et en plus, contre toute attente, justement, ils y arrivent forcément, puisque ça fait le résultat. Il y a des trucs dont vous voulez parler, que vous avez aimé particulièrement dans le film ou pas, Camille?
La mise en scène, on en parlait avec Arnaud hier quand on a revu le film, les figurants, déjà, tous ceux qui jouent des journalistes.
Ouais.
Tous ces moments où on voit Robert Redford au téléphone, on a regardé après cette séquence tellement c'était bien, et on les voit derrière dans leurs faits et gestes, dans leurs allers-retours. À mon avis, c'est des comédiens, ça peut pas juste être des figurants, ou en tout cas le réalisateur il a trop géré, parce que comme tu disais tout à l'heure, l'acting il est parfait.
En fait, ça m'a fait penser
un peu à Spotlight.
Oui, pour le coup, effectivement, ouais, dans le milieu journalistique. Et alors c'est marrant parce que.
Dans le porte-à-porte.
Ça m'avait intéressé de savoir un peu comment ça s'est fait. C'est effectivement des comédiens, les figurants, parce que Robert Redford a dit qu'ils avaient tenté de tourner ça dans le vrai centre du Washington Post, mais les journalistes ne pouvaient pas faire semblant qu'il n'y avait pas de caméra. Du coup, ils étaient obligés de partir à Los Angeles.
C'est drôle.
Ouais, non, mais c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que c'est du bon travail. Moi, j'aurais juste un petit truc à dire sur le... J'ai l'impression que en arrivant sur le dernier quart du film, justement, le rythme qui était pas mal dont je parlais, c'était un peu... essoufflé, en fait, j'ai l'impression qu'il reprenait un petit peu les mêmes façons de faire qu'il avait fait pendant tout le début du film et que c'était pile le moment où justement il fallait changer, il fallait peut-être arriver tout de suite vers son dénouement, quoi, tout bêtement. Donc oui, je pourrais pas vous dire exactement, c'est justement vers la mise en cause du vice-président, justement. Là, j'ai trouvé que c'était un peu, je sais pas, un peu plat, mais parce que pendant tout le film, je m'étais dit, c'est peut-être du 4,5 miam, 5 miam, tu vois. Et là, ça m'a... et là, quand ça arrive à ce niveau-là...
Dit-il en croquant son cheeseburger, quoi.
Et quand c'est arrivé à ce niveau-là, j'ai fait... non, c'est pas aussi bien que ce que je pensais, mais je sais pas. Voilà, ça... Écoute, ça m'a fait perdre 0,5 miam pour moi. Tout simplement.
Okay, enfin, Jean-Yves, je sais pas si t'as quelque chose à dire.
Ouais, moi je voulais juste, du coup, c'est pour rebondir un peu sur ce que t'as dit au début, Arnaud, mais moi j'aime énormément, et ça a pas mal de leçons à donner pour la suite, parce que c'est un film de 76, et déjà, c'était pas... Enfin voilà, il y a ce film, l'intelligence de ne traiter qu'une partie, du coup, une partie de l'histoire, et du coup, ça sert vraiment le côté où on prend le temps de regarder les choses, d'aller dans... Et c'est ça qui est marrant, c'est que combien de films, après, sont tombés dans cette erreur, après, dans les années 90-2000, de vouloir tout faire, tout couvrir, tout l'événement, alors que là, c'est vraiment cette intelligence à avoir un fragment du truc. Et je voulais juste parler un petit peu de la photo. En fait, c'est un truc qui m'a dérangé. Alors, j'essayais de concilier ça. En fait, moi, au début, je trouvais la photo assez décevante, voire souvent dégueulasse par endroits. Et du coup, je me suis dit, est-ce que du coup, c'est vraiment pour servir l'aspect documentaire, tu vois ? Je me suis dit... Et je sais pas, d'un côté, je me dis, il y a tellement de films dans les années 70 où la photo était déjà super bien. Et je sais pas quoi en penser, je sais pas si j'arrive à pardonner la photo, je voilà.
Alors, juste au niveau de la photo, donc c'est Gordon Willis qui a fait la photo de ce film, qui est une légende vivante, puisque c'est le directeur photo du Parrain et du Parrain 2 notamment.
Eh ben moi, je comprends pas alors du coup franchement.
Et de Manhattan, Annie Hall, enfin il a fait énormément de films très très importants des années 70. Et en fait,
il avait la grippe.
Non mais ce que tu dis moche, moi j'ai l'impression certes, c'est peut-être pas beau, mais c'est cohérent. Enfin, c'est ce que tu dis exactement sur l'aspect documentaire, c'est-à-dire ce décor avec la lumière de néon qui est en douche comme ça sur les personnages, c'est pas fait pour être beau, quoi. C'est fait un peu pour...
Non, mais ça, je comprends, mais moi, c'est si tu veux. C'est pour ça qu'il y a un moment où j'ai essayé de le concilier en me disant qu'il y avait forcément. Il y avait forcément la raison documentaire m'a fait apprécier la photo, mais quand la première heure je me disais c'est bizarre, il y a un truc qui collait pas pour moi sur
J'aimerais en profiter pour rebondir pour parler justement que en fait ce que j'aime dans la mise en scène de ce film, c'est la cohérence de tous ces partis pris techniques. Et on en parlait un petit peu avec Camille hier, notamment, en fait, je pense que, clairement, c'est parmi les plus beaux décors de cinéma que j'ai vu de ma vie. Et pas dans le sens où ils sont beaux à l'image quand tu les vois, mais en fait, c'est de la véritable mise en scène. Et en fait, quand tu prends déjà ce bureau où on les voit travailler, où c'est toujours filmé en plan large et où le travail de chorégraphie des figurants, comme l'a dit Camille, est toujours parfait pour nous immerger un peu dans ce milieu-là. Mais il y a toujours des choix de décor qui sont faits en fait pour renforcer ce qu'on voit à l'image. Et je vais prendre deux petits exemples. Une des premières fois où les deux journalistes sont mis en contact, en fait, ils n'arrivent pas à se voir parce que leurs bureaux sont masqués par un pilier qui est au centre de la pièce, et ils sont obligés en fait de se pencher pour voir ce que fait l'autre. Et il y a toujours, tu vois, des éléments comme ça qui sont faits, qui sont pas là forcément pour être beaux, mais qui sont là pour faire de la mise en scène, en fait, pour pouvoir montrer une situation, pour montrer en fait cette approche, cette petite chorégraphie qu'il y a entre les deux, comment ils se tournent autour avant de finir par travailler sur le même sujet. Et c'est la même chose dans tous les appartements, c'est-à-dire quand ils rentrent dans l'appartement de cette femme qui a des réticences à parler, cette femme dont j'ai évoqué l'histoire il y a 3 minutes là, elle parle d'une autre pièce. Tu vois ce que je veux dire? Elle parle, il y a le journaliste qui rentre dans le salon, et elle, elle reste dans la cuisine, sur le pas de la porte, et il y a même une rambarde d'escalier qui les sépare tous les deux. Et cette manière de l'éloigner, où on va la voir petit à petit avancer, à chaque fois dépasser un élément du décor pour se rapprocher, et il y a quelque chose de très très malin dans la manière dont c'est organisé, et je crois qu'on peut dire la même chose du son. C'est-à-dire que le son cherche pas à avoir le son le plus clair, le son le plus beau en permanence. C'est-à-dire que si on est dehors et qu'il y a du vent, on entend le vent.
Ouais.
Alors que c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, d'ailleurs, ça m'a marqué surtout, tu sais, dans une scène où à un moment il y a Dustin Hoffman, Steven, qui interview,
qui est charrette
totalement, et qui interview/drague une assistante de la Maison Blanche, et en fait il y a un avion qui passe en plein milieu de la scène, tu sais, et t'es là, t'entends pas
elle
très
est
bien,
de crier.
Fort, et, ouais, crée, et du coup tu fais, oui c'est vrai que ça rajoute au réalisme, parce que tu dis, oui, dans la vraie vie il y a des choses qu'on n'entend pas très bien, et c'est vrai qu'il y a tout le temps ces espèces de répétitions, tu sais, à chaque fois qu'ils sont au téléphone, ils disent, c'est bien du creep dont vous parlez, c'est ça, c'est du comité pour tu vois, et parce que pour moi ça rentre toujours dans la minutie d'avoir absolument les faits qui sont confirmés, tu sais, par tout le monde,
et surtout de montrer ce filtre. Je veux juste prendre un autre exemple, mais la première fois que Redford entend parler de cette affaire, c'est, il est au tribunal, il assiste en fait à l'audition des cinq hommes, et en fait ces cinq hommes on ne les verra que de dos parce qu'on est du point de vue de Robert Redford, et en fait leur voix est détimbrée parce qu'ils sont dos au micro, et on entend de loin en fait un type qui hésite et qui le dit à basse voix et qui dit, j'ai travaillé pour la Central Intelligence Agency.
Ouais.
Et le juge lui fait répéter, pardon, Central Intelligence Agency, pardon, the CIA.
Et là,
tu vois Robert Redford qui écoute ça et qui dit, holy shit, sainte merde.
Ou alors, le mec du son, il était malentendant en fait depuis le début. En fait, tout le monde devait se répéter. Mais juste, j'ai une question à te poser, Jean-Yves, parce qu'en fait, genre, tu dis que c'est moche. La cinématographie. Qu'est-ce que t'aurais aimé voir en prenant un exemple d'un autre film comme cinématographie sur ce film, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui serait un peu documentaire, qui est plus beau en fait en termes d'image, ou en tout cas qui servirait tout aussi bien le propos du film tout en étant beau?
Spotlight par exemple.
Ouais, je sais pas qui fait, parce que moi je pensais tout de suite à Paul Greengrass, tu vois.
Attends, là t'es en train d'essayer de me corner. Je me suis déjà fait buzzfucker par Arnaud qui m'a clairement dit que c'était une légende de la photo. Donc là,
attends, parce que moi,
ça va pas se passer comme ça. Vous allez pas gang, je suis pas me faire gangbanger parce que.
Je suis un peu de ton côté, c'est-à-dire que légende de la photo ou pas, je veux dire, tu peux avoir une mauvaise année, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que je la trouve pas.
En fait, clairement,
cette histoire de double focale.
Oui.
Ça fait partie du travail de photographie aussi.
C'est vrai. Oui, mais après ça, tu vois, j'imagine que c'est une grosse discussion qu'il y a avec le réel aussi à la base, de dire, ouais, on va le faire pendant notre film. Tu vois, c'est pas genre.
Ouais, bien sûr.
C'est pas non plus l'image pendant
tout
le film.
Du coup, la focale, c'est vachement intéressant parce que ça, c'est un truc que j'ai adoré. Et du coup, j'adore le plan. Je sais pas si c'est exactement le plan final, mais un des derniers plans où ce que tu disais, tu vois au premier plan la télé avec Nixon et puis derrière, et le premier journaliste. Voilà. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on avait déjà eu cette discussion avec Arnaud, mais c'est marrant. Donc quand on a banalisé les profondeurs de champ, où en fait on a banalisé ce flou en permanence d'arrière-plan que tu vois partout maintenant.
Ouais.
Et je trouve qu'il y a de moins en moins de personnes qui valorisent cette capacité qu'un objectif peut avoir à capter le plus de choses possible jusqu'au bout d'un champ, tu vois. Enfin voilà,
il y a Scorsese qui fait un peu ces clins d'œil là, il me semble que c'était dans Departed, non?
Mais j'ai l'impression en fait, et paradoxalement, que justement ce truc de flou d'arrière-plan qui a à la base un problème optique, quoi, j'ai l'impression que ça s'est inversé en fait, et que ça c'est devenu le standard, tu vois, et
que
il y a de moins en moins de gens,
parce que ça fait cinéma,
c'est marrant, quoi.
Donc tout le monde préfère avoir le bokeh derrière,
le bokeh c'est devenu la base en fait, je comprends pas pourquoi en fait.
Alors qu'en fait
et que là on voit véritable, c'est-à-dire ils se sont fait chier pour faire en sorte qu'on voit tout, Mais oui. Faire en sorte que même quand il y a un gros plan, c'est quand même un plan large. Enfin, c'est un truc de mise en scène super intéressant, je trouve.
Ouais. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, juste pour revenir sur la lumière de seconde, moi, je trouve pas... Enfin, je trouve que les scènes où il y a Robert Redford qui est dans les parkings, tu vois, ben là, je trouve clairement que la photo, ça va pas, quoi, parce que je trouve ça trop... Je sais pas, ça fait limite caméra, vieille caméra de surveillance. On voit rien, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'on voit rien, ça me dérange.
Mais ouais, mais là aussi, bon, clairement, c'est voulu parce que c'est de gorge profonde. Oui. D'ailleurs, c'est un film qui introduit plusieurs choses intéressantes qu'on connaît maintenant dans les films d'espionnage et tout ça. C'est le gorge profonde, le deep throat, le gars qui va te donner des indications, mais qui ne veut jamais être cité comme source. Qu'on revoit dans X-Files et le truc de follow the money, tu sais, suis l'argent, que maintenant on voit tout le temps dès qu'il y a des films de narcs, des choses comme ça, tu sais, pour il faut suivre l'argent, c'est là que tu vas arriver au grand pont en faisant ça. Donc c'était pas mal quand même. C'est quand même un film cornerstone un peu dans tout ce qui est espionnage et enquête, donc c'est assez important.
Et c'est vrai que sur ça, je suis d'accord, Jean-Yves, qu'il y a un truc un petit peu très artificiel dans la manière dont il cache les trois quarts du visage de gorge profonde aussi. Mais il faut dire que c'était un choix, parce qu'à l'époque, on ne savait pas en fait qui était ce gorge profonde qui avait donné des informations à Woodward et Bernstein. Depuis, on le sait, il s'agissait de Mark Felt, qui était le numéro 2 du FBI.
D'accord. Oui, mais enfin, ouais, enfin, bon, ça change pas qu'ils ont choisi un acteur et qu'ils peuvent le filmer comme ils veulent, tu vois ce que je veux dire.
Ah oui, oui, non, mais je suis d'accord sur le côté un petit peu artificiel, ouais. Où à chaque fois il se trouve comme par hasard dans un endroit où son visage va être aux trois quarts dans l'ombre, ouais, ouais. Pas les yeux pour qu'on puisse lire les expressions sur son
effectivement,
visage.
Ouais, bah du coup, là je mets un point pour Jean-Yves, parce que toi tu parlais de cohérence dans la cinéma dans la photo, et en fait bah, du coup c'est pas cohérent si t'as des scènes où tu les stylises à fond et le reste tu fais quelque chose de très réaliste, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ça sonne un peu
mais bon, après je t'avoue que moi j'ai pas non plus été choqué par la après je sais pas, j'ai un remaster Blu-ray sympa, enfin le son c'est quand même du mono, hein, mais l'image, j'ai l'impression la meilleure que ce qui est possible de faire. Mais c'est vrai que j'ai pas été ni choqué par la beauté ni par la mocheté de la photo.
Et un truc aussi que j'ai bien aimé, je crois qu'on sous-estime là, tu sais, c'est un peu quand on dit il joue bien un gars qui lit un livre, et là je trouve qu'il joue vachement bien les gars qui sont au téléphone.
Ah oui, complètement.
Et je pense que c'est un truc qui est super dur à jouer, tu sais.
Non mais c'est vrai, vous avez vu le film non-film de Quentin Dupieux?
Ah oui,
premier film.
Oui.
Ouais, ça me dit un truc.
Non, c'est juste, ça me rappelle parce qu'il y a une scène. En fait, c'est un film sur la mise en abyme d'un tournage.
Comme
et à un moment, il y a une maquilleuse de cinéma qui dit au personnage principal: ah, ça m'énerve, dans les films, les acteurs, ils jouent toujours trop mal, qu'ils soient au téléphone. Et ça se voit toujours qu'ils jouent pas l'attente qu'il faut, l'attente exacte d'écouter l'interlocuteur. Et là, c'est vrai qu'ils le font trop bien. Ouais. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un.
Et non seulement ils le font trop bien, mais en plus, ils arrivent à rendre des scènes intéressantes où tu ne vois que interlocuteur. Tu vois. Tu ressens pas le besoin d'avoir le discours opposé.
C'est vrai qu'il n'y a jamais l'autre bout du fil.
Ouais. Jamais. Hein.
Ouais. Jamais, à aucun moment, ouais.
Ils sont hyper justes dans toutes leurs intonations, mais les onomatopées, tout est trop géré. Quoi.
Même quand j'y repense, là, il y a une scène où Dustin Hoffman se fait passer pour un collègue d'une secrétaire pour l'attirer en dehors du bâtiment et pour pouvoir aller voir le patron.
Trop un truc de jeu vidéo, tu sais. Vous voulez faire quoi? Attirer la secrétaire à l'extérieur pour rentrer.
Mais même là, c'est intéressant parce que la caméra, elle reste sur la secrétaire et elle accompagne pas le héros Dustin Hoffman qui va dehors pour appeler, quoi.
Ouais. Mais c'est tellement un film bourré de trucs et astuces de journalistes, tu sais, parce qu'il y a toutes ces techniques-là. Il y a aussi la technique, tu sais, à la fin, c'était génial. À la fin, c'est comment avoir quelqu'un qui te confirme quelque chose que tu sais, mais sans vraiment confirmer, parce qu'il ne veut pas, il ne doit pas s'impliquer légalement. Tu lui dis, je vais compter jusqu'à 10. Si vous n'avez pas raccroché, c'est que vous êtes d'accord avec ça. Et si vous avez raccroché, c'est que vous n'êtes pas d'accord. Putain, c'est assez drôle.
Les les petites Dustin Hoffman, c'est le roi des technicalités en fait dans ce film. Alors vous voulez pas me dire les noms, mais je vais dire des lettres de l'alphabet et si ça correspond à ses initiales, vous faites.
C'est le gars qui si tu joues un jeu de plateau avec lui, il va te trouver toutes les finesses des règles, tu sais, pour te <l'intérieur>.
Non mais c'est vrai, c'est le filou des deux. Mais ce qui est marrant, c'est que Robert Redford il apprend petit à petit. Et j'aime beaucoup aussi ces scènes où ils se mettent d'accord sur comment ils vont faire pour manipuler le type qu'ils vont interviewer. Et en disant vas-y, je vais balancer qu'on sait cette information et on va voir comment il réagit et ça va nous confirmer ou non si c'est vrai ou pas. Ouais.
C'est des petits filous, quoi. Ouais.
Et d'ailleurs c'est marrant, j'ai l'impression que c'est véritablement ça le sujet du film, parce que c'est vrai que sur le scandale du Watergate lui-même, les informations qui nous sont données, faut s'accrocher, quoi, hein, parce que c'est vraiment ça. C'est une affaire complexe, ça part dans tous les sens. On nous aide pas tout le temps. On balance 50 noms à la minute, etc., ouais. etc. Ah ouais. Mais la manière dont le scénario est écrit, c'est-à-dire qu'on sait toujours, par contre, exactement où ils en sont de l'enquête et ce qu'ils cherchent en interrogeant un témoin.
C'est important.
Donc
on a leur vecteur.
Le scénario
tout
est très
temps,
bien écrit, quoi. Ouais, c'est ça. On a le vecteur et même si à la fin on sait pas tout de l'affaire. Ce qui n'est pas forcément le but d'un film. En tout cas, on sait des choses sur le film dit énormément de choses sur la méthode et sur ce que c'est d'exercer un contre-pouvoir, en fait, ce genre de choses. Et je trouve que le film est super intéressant.
Après, le scénar, c'est quand même William Goldman, donc on est en train de parler du gars qui a fait Princess Bride. Donc à partir de là, ça ne peut qu'être parfait. Et Heat, d'ailleurs. Oui. Mais voilà.
Grand scénariste, ouais.
D'autres choses à rajouter, j'aimerais bien avoir vos miam avant qu'on parle, parce que moi ça me fait forcément penser à genre de l'actualité ou faire une comparaison avec des films actuels, mais j'aimerais bien savoir où est-ce que vous situez au niveau des miam pour ce film.
Bon, je vais commencer du coup. Alors c'est sur 5 miam, hein.
Ouais,
tu
oui.
dois voilà. Moi je mets 4 et demi.
Elle connaît, c'est une fan, elle connaît.
Moi aussi, je suis une fan avérée. 4,5, ouais, moi aussi.
Moi, je vais mettre 4.
Tu sais, c'est trop bien parce que
pour
quand
les
scènes
de parking.
Non, moi, je vais mettre 4 aussi parce qu'il y avait une scène un peu trop longue sur d'une voiture qui roulait. Ça m'a fait chier un certain moment.
Bon, quoi qu'il en soit, je crois qu'on peut dire qu'il a le tampon fin de séance.
Complètement. Et d'ailleurs, c'est un film qui a pas du tout vieilli dans la mise en scène en général. Enfin, tu le mets à quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à regarder d'anciens films, rien ne va le gêner dedans.
Ah ouais, c'est clair.
Tu vois,
non, ça,
alors
c'est
qu'il y a clair, des films des années 70, alors qu'il y a des films des années 2000 même qui ont vieilli de là, tu vois. Donc, donc c'est quand même assez important de le dire.
Roland Emmerich, si tu nous écoutes. Voilà.
Independence Day 2, c'est le film qui a vieilli une heure après sa sortie, tu sais.
Il est mort, c'est Benjamin Button ce film, sauf qu'il rajeunit pas, mais il est né vieux, quoi.
Né vieux, ouais.
Il vieillit à mesure que tu le regardes, tu sais.
Ça finit en un film muet.
Mais je crois que la meilleure critique d'Independence Day 2, ça serait de dire je me suis senti vieilli en regardant ce film, quoi. C'est...
Je suis ressorti avec une barbe. Mais ouais, non, ce film il est nickel. Et forcément, on pense tout de suite à du Snowden, en fait. Mais en fait, en réalisant que Snowden, c'est Gorge Profonde. Mais ça a changé, c'est-à-dire que maintenant, les journalistes, j'ai l'impression, sont tellement verrouillés que c'est pas eux qui amorcent l'investigation. Tu vois ce que je veux dire?
Hashtag whistleblower, quoi. Maintenant, il y a le.
Mais le truc, c'est que maintenant, on est dans un monde où il faut avoir le whistleblower pour initier l'investigation, parce que sinon, toi-même, en tant que journaliste, on te donne pas à faire ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Tu vas pas gagner ton argent à être dans un fait divers où 5 gars se sont fait arrêter pour cambriolage et continuer justement dans la haute sphère. Parce que j'essayais.
Mais justement, ça sera intéressant de parler des films héritiers un peu des Hommes du Président pour voir en fait comment la fonction de journaliste a peut-être changé au cours du temps.
Bah, fais-le, hein, on est dans un podcast.
Ouais, non, mais.
Ce sera intéressant plus tard, peut-être.
Parce qu'en fait. En fait, bon, Pakula, de toute façon, il a des héritiers clairs. Bon, tu parlais de Spotlight de Tom McCarthy, qui est clairement un quasi-remake des Hommes du Président, bon, sur une autre histoire, mais c'est le même principe.
Ça
mais,
parle de gens qui se font violer, quoi. C'est pareil pour le Watergate.
Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, il y en a un autre auquel je pense, c'est David Simon, quoi.
The Wire, quoi. Tout ce qui est.
The Wire, ouais, exactement.
Bah, d'ailleurs, Follow suit l'argent. C'était dans The Wire aussi, qui lui dit si tu suis la drogue, je crois que j'ai lu, c'était peut-être sur Wikipédia que j'ai lu ça. Si tu dis suis la drogue, tu vas trouver des addicts et des dealers. Suis l'argent et tu sais pas où est-ce que ça va te mener. Donc tu vois ça.
Mais donc sur ces deux exemples précis en fait, sur dans la saison 5 de The Wire notamment, c'est il y a une grosse partie qui est consacrée aux journalistes et c'est le bon, je me rappelle plus le nom du journal, mais c'est le Baltimore Sun, non, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais.
Enfin bref, ce journal vient d'être racheté par un grand groupe qui veut se servir de ce journal comme d'une manière de faire des bénéfices, quoi. Et il montre que petit à petit, en fait, on vire des gens et on fait en sorte que les enquêtes qui trinquent le plus, c'est un peu les enquêtes que Woodward et Bernstein faisaient. Parce que c'est vrai que ce genre d'enquête, c'est des enquêtes un peu à perte, parce que tu mets des journalistes à temps complet sur des affaires, ils vont pas te sortir des articles tout le temps, il faut vraiment qu'ils suivent la chose. Et sur Spotlight, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a deux choses assez intéressantes sur Spotlight, c'est que déjà, on montre cette cellule à l'intérieur d'un journal Spotlight un peu comme une exception qui est absolument nécessaire pour révéler des affaires aussi importantes que ces affaires de prêtres pédophiles à Boston dans Spotlight. Et ce que je trouve intéressant dans Spotlight aussi, c'est quand il parle du statut du journaliste. Je vais spoiler le film, donc je suis absolument désolé.
Tu vas spoiler la vie en fait, c'est ça.
Mais en fait, grosso modo, le sujet du film, c'est d'expliquer que si ces histoires de pédophilie dans l'église sont possibles, c'est parce qu'il y a tout un tas d'institutions en fait qui ferment les yeux sur ça, que ce soit le catholicisme, mais ça va aussi dans la police, et donc il le montre, ça va dans la mairie, et ça va aussi dans le journal, puisque en fait, on apprend à un moment donné que le journal dans lequel il travaille avait fait un article il y a quelques années et avait pas suivi l'enquête. En se disant que c'était pas grand chose et que c'était isolé. Et à la fin du film, on apprend que le journaliste qui avait fait cette enquête, c'est Michael Keaton, donc le journaliste qui tient un peu cette cellule du Spotlight pour enquêter sur cette affaire. Et à ce moment-là, en fait, où il révèle que, sans le savoir, en fait, il a pris part à cette corruption-là. Et c'est intéressant de voir ça parce que c'est pas du tout le cas dans les Hommes du Président. Dans les Hommes du Président, la presse, c'est vraiment le quatrième pouvoir qui est indépendant totalement et qui est là pour chercher les choses. Et c'est intéressant de voir en fait la manière dont le métier de journaliste a évolué et la manière dont le métier est vu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus autant ce quatrième pouvoir tel qu'il l'était à l'époque des Hommes du Président, quoi.
Plus aussi indépendant, ouais. C'est pour ça que, en fait, oui.
Surtout dans la mesure où tout le monde est en mode populiste et maintenant les médias, c'est les méchants, tu sais.
Ouais, bah ouais, parce que.
Ouais.
Les médias font aussi partie du jeu commercial, du clickbait, etc. Et donc, forcément, bah en fait, c'est pour ça, c'est genre le whistleblower maintenant, il doit rapporter quasiment tout. Enfin, c'est Snowden, quoi. Il doit rapporter tout son truc, tout son bagage.
Tout clairement.
Regardez,
quoi.
Tous les faits sont là.
Mais
donc,
c'est ce que...
croyez-moi, même aux journalistes.
C'est ce que se plaisait à répéter Julian Assange très souvent, c'est-à-dire que quand il disait WikiLeaks, et il a dit on est obligé de révéler ce genre d'affaires parce que les journalistes font plus leur boulot, en fait.
Ouais, tout à fait, absolument.
Ouais, ouais, c'est ça.
On va finir.
Mais c'est intéressant que tu parles de Spotlight, et bon, moi j'ai énormément beaucoup pensé à ce film, et du coup, là où c'est quand même assez convenient et pratique sur le timing, c'est que t'as quand même encore un petit côté les vieux pots, tu vois, dans Spotlight, parce qu'il y a encore les calepins, tu vois. Mais tu vois, c'est aussi possible parce que ce scandale éclate au tout début des années 2000, on n'est pas encore dans l'hyperconnectivité et l'hyperboom d'Internet, tu vois.
Ouais. Donc, c'est le dernier moment du calepin, comme tu dis.
C'était le dernier moment, c'était now or never, tu vois. Et du coup, ça aurait été intéressant de voir... Comment ça se serait passé si ça on avait été plus dans les années 2010, tu vois. Comment ils auraient abordé ce travail journalistique,
mais après je suis d'accord que je pense que l'outil doit énormément changer le travail en lui-même, mais je pense que ce qui a changé aussi énormément le travail, c'est qui possède les médias, quoi.
Ouais. Bah oui,
qui forcément. A plutôt changé autour des années 80 et 90, quoi.
Ouais. Je pensais aussi au film avec Julia Roberts Rien à voir, mais c'est...
L'affaire Pélican.
My name is N... Allez, c'est des avocats, mais...
Ah, Erin Brockovich Non,
oui, quoi Erin Brockovich, ouais.
Non, mais juste dans Paris, parce qu'elle est tout le temps avec son petit calepin et son crayon papier dans ce film.
Ouais.
Et elle va de chez des gens...
Faire du porte-à-porte, dans... ouais.
Ouais, voilà.
C'est en gros...
Il pas, ça me fait...
Non, mais c'est vrai qu'elle est avocate, mais c'est, je ouais, pense que c'est aussi un héritier des hommes du président, ce film. C'est la même sorte d'enquête, quoi, clairement. Ouais. Ouais. Avec les témoins qu'on doit aller chercher, ouais.
Ouais,
mais du coup, ce qui est marrant, c'est que est-ce que est-ce qu'on a su au fond quels étaient les intérêts pour Gorge Profonde à donner tant d'infos comme ça? Est-ce qu'il avait son épingle à tirer du jeu par rapport à...
Je pense pas, parce que vu qu'on
tu
l'a
veux dire
su
en termes carriéristes très...
Est-ce qu'il y avait un peu de ça ou pas, ou c'était purement pour foutre la merde?
Je pense pas, parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui sincèrement était dégoûté de la non intégrité du FBI, quoi, de son
tu crois?
Ouais, de sa propre, parce que en fait sinon il les aurait vachement plus aidés, enfin comment dirais-je, sinon il les aurait pas aidés déjà. Tu vois ce que je veux dire? Et, ou alors il les aurait beaucoup plus aidés dès le début, si c'était un truc carriériste vraiment pour évincer par exemple le directeur pour être nommé à la place du directeur ou quelque chose comme ça, tu vois. Alors que là c'était un peu justement distillé au compte-goutte son aide des deux journalistes.
Parce que ce qui est marrant, c'est que moi j'ai essayé de voir des exemples et je me rends compte que dans les exemples auxquels je pense, il y a toujours une volonté à avoir un truc carriériste et à tirer son épingle du jeu, tu vois. Je pense à tout de suite parce que je suis très en retard, mais tu vois, par exemple, dans House of Cards,
ouais,
si Frank Underwood il couche avec la journaliste, c'est pas pour que lui donner des infos, mais c'est pour que les infos éclaboussent ses concurrents, tu
oui,
vois.
Bien sûr.
Et de la même façon que le dernier gros scandale qu'il y a eu, c'était l'affaire des Panama Papers, qui est un truc pareil de whistleblower, puisque c'est un gars d'un cabinet, je sais plus, c'était un cabinet de bon, bref, je sais plus, mais c'est un dossier qui a été donné, tu vois, aux journalistes, ouais, encore une fois. Mais ça veut dire qu'il y a toujours un moment donné où ces gens qui font les whistleblowers, alors je vois que Snowden en exception,
bah ouais, c'est ça.
Mais il y a souvent ce truc de, il y a un moment donné, on n'a pas accepté un compromis, ok, je balance ça, il y a un leak à la presse, quoi, tu vois.
Ouais, attends, il y a aussi l'autre whistleblower, là, comme il s'appelle, celui qui a changé de sexe, tu vois. Et...
Chelsea Manning.
Ouais, Chelsea Manning, tu vois. Il y a aussi des gens qui sont dans une structure... qui juste disent, mais en fait, ce qu'on fait, c'est moisi, quoi. Et qui vont, du coup, plus se prendre sur la gueule, puisqu'elle est en prison maintenant, qu'autre chose. Donc, bon, après, dans tous les cas, je vais te dire que ce soit, qu'il y ait une volonté quelconque derrière, ça change pas que c'est la vérité. Et que sans lui, bah, ça se serait pas su, en fait, tout bêtement. Ce serait étouffé encore par le système. Donc, c'est assez important de toute façon.
Mais en fait, aussi, surtout, aussi, ce que rappelle le film, c'est que, on doit vraiment, en fait, la découverte de cette affaire à ces deux journalistes, qui ont été opiniâtres et qui ont été les seuls à tirer les fils. Et en fait, tu te demandes combien il a pu y avoir d'affaires de ce genre qui n'ont pas été révélées par des journalistes, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Parce que tu vois que tout le monde était dedans, du FBI, la CIA.
Parce que même
le ministre de la justice.
Si c'était peut-être pas à ce point, mais cette idée, parce que donc rappeler l'affaire du Watergate, ce qui était scandaleux, c'est la manière dont ils ont pesé dans la vie politique du pays en choisissant quel candidat serait représenté pour les démocrates pour faire en sorte que Nixon ait le plus de chances possible de l'emporter face à lui. Et récemment, il y a eu quand même une affaire similaire avec Hillary Clinton et Bernie Sanders, quoi.
Ouais, ouais. Justement, je voulais en parler parce qu'en fait, du coup, on sait que il y a eu un hack des Russes sur les mails. Mais en fait, c'est ça. J'essayais en fait de transposer exactement l'histoire des hommes du président à maintenant, technologiquement, en fait. Et tu te rends compte que ça se transpose assez bien, hein, parce que l'herméticité des documents qu'on a plus ou qu'on a détruits, tu vois, dans les hommes du président, mais en fait, ça va aller dans des hacks informatiques dans le monde de maintenant, puisque voilà, des hackers russes ont réussi à avoir des emails du parti démocrate qui prouvaient qu'effectivement déjà à la base il y avait des magouilles dans le parti démocrate pour que ce soit Hillary Clinton qui gagne et pas Bernie Sanders. Mais du coup il y a eu un choix là encore pour le coup, par contre, et comme tu disais, Jean-Yves, à mon avis, un choix conscient et intéressé de distiller ces informations au compte-gouttes petit à petit pendant les, la campagne pour avantager Trump, parce que du coup, petit à petit, ben, on disait « Ah, mais regardez, Hillary Clinton, elle a bidouillé les primaires. Ah, mais en plus, elle a pas protégé ses mails, etc. » Tu vois, et en gros... Comment, en fait, c'est le Watergate qui a réussi, quoi. C'est-à-dire que l'écoute des mails a permis de choisir le futur président.
Oui, en fait, aussi rappeler, le Watergate a réussi.
A oui, réussi, a réussi aussi. Aussi que, ouais, avaient, voilà,
c'est juste qu'ils se sont fait choper à la fin, quoi.
Sauf
et que
dans
ça
le sens où ça
terminé,
a réussi, mais... c'est que dans le monde de maintenant, on le sait, mais tout le monde s'en bat les couilles, en fait. Tu vois, il y a zéro journaliste
et justement j'aimerais revenir pour un peu plus parler de cette fameuse Canuck Letter qui a gêné. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y a un journal qui a reçu une lettre de quelqu'un qui dit avoir été témoin de Muskie qui aurait traité les Québécois de manière très très hautaine, en les traitant de canouk, qui est une insulte pour traiter les Québécois. Et en fait, cette information, elle a été révélée, je crois, 2 ou 3 jours avant la primaire dans le New Hampshire, où il y a une très très forte minorité de Québécois qui, justement, n'ont pas voté pour lui parce qu'il y a cette affaire qui a été révélée.
Beaucoup d'ascendants.
Et donc, en fait, on s'est rendu compte que cette lettre était un faux et qui avait été créée par un suppôt de Nixon qu'on voit dans le film. Et en fait, c'est intéressant de voir comment, à l'époque, un candidat en fait qui lâche un mauvais mot pour qualifier les Québécois, tout de suite, il est mort. Et alors que j'ai l'impression que dans la campagne présidentielle française en ce moment, on s'en donne à cœur joie et ça pose de problème à personne, quoi. Ouais.
C'est ça qui est hallucinant, c'est que nous, c'est le next level, c'est y a le Watergate, il y a les gros dossiers, mais le gars, il est là, hop, non, mais il n'y a pas de souci, je reste en place.
Oui, c'est ça. Avec Fillon qui fait, non, je vois pas où est le problème.
Il n'y a pas de problème, j'aime ma femme.
C'est vrai que tu vois que dans l'administration Nixon, parce qu'à un moment, tout le monde était dans le déni, en fait, tout le monde était des Fillon, en fait. Tout le monde disait, non, je n'ai jamais discuté avec ce journaliste, je comprends pas, je vois pas ce que vous voulez dire. C'est genre... En fait, il a raison de faire ça, Fillon, parce que ça marche, quoi. Ça a failli marcher avec Nixon. En fait,
et en fait c'est la vraie question, quoi. C'est que comment on a fini par être dans un système qui accepte ce genre de choses, quoi.
Ouais, c'est probablement parce que on regarde pas assez les hommes du président. C'est pour ça.
Non, mais ce qui est fou, c'est que tu finis ce film et du coup le film était censé clôturer le truc. C'est bon, on vit dans un monde meilleur. Ils ont montré la vérité. Et puis en fait, finalement, tu regardes les news et tu fais ah ok, donc en fait ok. 40 ans plus tard,
mais justement, ce que tu dis, c'est intéressant sur la fin des hommes du président et de voir comment ce genre de film finissent aujourd'hui. Et si tu prends la fin de The Wire ou la fin de Spotlight, c'est beaucoup plus mesuré. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai l'impression qu'il y avait cette entraîne du genre les journalistes, on peut changer le monde. Et maintenant, quand tu vois le même genre de film, c'est beaucoup plus désabusé, en fait.
Ah oui, c'est complètement dark et complètement genre ça se finit comme un documentaire Blackfish, quoi. Tous les heures vont mourir. Tu vois ce que je veux dire? C'est il y a aucune once d'espoir, clairement. Genre tu finis par avoir un Snowden en Russie qui peut pas rentrer chez lui, tout simplement, quoi.
Ouais, qui va ça. Peut-être d'ailleurs
être extradé en plus. Comme cadeau à Trump.
Qui se termine cet été, non, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais.
C'est possible bientôt, en tout cas, je sais plus quand, mais c'est bientôt, ouais.
C'est bientôt, genre les gars. Ministre de l'immigration. Ouais, non, c'est bientôt, j'ai vu son, j'ai vu son passeport,
non, non,
ouais, c'est ça.
Mais il est dit sur ce papier que c'est indéfini. Non, non, mais ça se finit bientôt.
Il y a Poutine lui-même qui fait non, mais c'est terminé, je crois que tu rentres chez toi. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas en prison, je pense.
Ah, c'est ça.
Est-ce que vous avez d'autres choses à raconter? Camille, parle-nous plus. Je crois qu'on va nous dire oui, c'est inadmissible. Trop d'hommes ont parlé dans ce podcast et on n'a pas laissé assez de place.
Non, pas du tout. Je sais pas ce que je pourrais rajouter.
Non, pas du tout.
Peut-être la machine à écrire à la place de la machine à écrire. J'adore. J'adore les films avec des machines à écrire. Voilà, ça m'a fait penser à tous mes films préférés avec des machines à écrire, à Adaptation.
C'est vrai qu'il y a,
Je trouve c'est trop bien filmé en plus ce truc de la machine.
Et puis le son, le tempo avec le clac 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 de la machine à écrire, c'est vachement cool.
Puis les phrases qu'on lit là, je trouve ça hyper bien.
Non, et puis ça, il y a ce truc des vieux pots encore où ça, c'est l'espèce d'ode à la au vieux papier, à la presse écrite, quoi. Tu vois, c'était vraiment ça claquait le papier, quoi. C'était pas aussi dématérialisé et insignifiant que ça peut l'être maintenant, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça fait partie à l'ambiance, à l'ambiance effervescente un peu de cette salle de presse où ils sont toujours pressés, tu sais, de rendre leurs épreuves avant, la sortie de l'édition.
Tu réalises que maintenant l'informatique ne te permet pas du tout de faire un film pareil. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir quelqu'un qui va se déplacer, qui va, tu sais, qui va avoir 1000 reçus à regarder. Maintenant, on a des PDF. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, si t'as la même scène dans la salle des journalistes, tu vas juste avoir des gens qui sont assis. Et c'est, il y a rien de moins cinématographique qu'un mec devant un écran avec sa souris qui bouge, tu sais.
mais il y a un truc marrant, tu vois, sur ce que tu dis, c'est-à-dire que il y a quelques années, il y a un film français qui était sorti, je sais pas si vous l'aviez vu, ça s'appelait Les Chants de Mandrin de Rabah Merzaimesh.
Pas du tout.
Et non, mais tu vas voir, parce que en fait, c'est un film qui se passe au Moyen Âge, mais j'ai l'impression que c'est un film qui parle d'internet en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que on suit des contrebandiers qui traversent des frontières pour vendre leurs produits de contrebande, et en même temps qu'ils font ça, en fait, ils ramènent des écrits philosophiques notamment et ce genre de choses, et en fait ils montrent en fait la manière dont ils essaient de propager ces idées, où ils vont littéralement sur les forums des villes pour à la fois vendre leurs produits, mais sous le manteau un peu donner les livres, tu vois, qui sont interdits. On voit la manière dont pour reproduire ces livres, ça peut prendre des semaines, où ils vont devoir trouver un imprimeur qui va accepter de le faire, et où on voit ce travail de l'imprimeur où page à page, tu vois, il doit imprimer ces choses là à la main, tu sais, comme ça, avec la presse manuelle, pour ensuite les redonner à ces contrebandiers qui vont les diffuser un petit peu partout. Et c'était marrant de voir sur la chaîne de l'information, finalement, pour la montrer t'es obligé de retourner en arrière. C'est-à-dire, comment tu montres cette chaîne d'information si t'es vraiment dans l'internet d'aujourd'hui? C'est les mêmes choses qui se passent, mais en fait la vitesse à laquelle ça se passe, c'est tellement rapide que tu peux plus le filmer, quoi.
Ouais. Et puis surtout, il y a pas de, enfin, plus tu as de gens qui sont impliqués dedans, plus tu vas avoir des rétro-contrôles. Tu vois, quelqu'un qui va dire non mais là ce que t'as écrit c'est de la merde. Et on en revient à ce que tu disais, Camille, tout à l'heure sur le polishing, ce que tu viens d'écrire, tu vois, c'est pas clair, ou alors un fait n'est pas présent, etc. Alors que maintenant je mets, oui, les juifs sont responsables du 11 septembre, je mets entrée, c'est donné à tout le monde, tu vois.
Et,
Hashtag Breitbart, et genre c'est, et voilà, et du coup c'est effectivement la facilité de la fake news. Qui aussi vient avec cette beauté de la technologie. Attention, on est en train de skyper, c'est quand même grâce à ça aussi.
C'est vrai qu'aussi, il se pose souvent la question de est-ce que ce qu'on imprime est juste ou pas. C'est une des questions qui revient dans toutes les scènes quasiment. Quoi.
Ouais, ils ont un vrai rédac chef.
Je passe du Coca Light, mais David David Fincher, il me semble qu'il filme bien l'informatique dans son adaptation de Millennium, non?
Ouais, tout à fait. C'est en fait, c'est je pense le meilleur réalisateur à avoir compris ça. Ouais. Je pense que c'est un travail qu'il entreprend depuis Zodiac, et j'ai l'impression qu'il parle que de ça dans tous ses films maintenant. Ouais. Il le fait très très bien, ouais, t'as raison.
C'est vrai que, mais bon, enfin, là, ils ont fait littéralement un film sur ça dans
c'est un film sur Google, sur la recherche Google.
Dans The Girl with the Dragon Tattoo, autant c'est très bien filmé, mais au max, t'as 15 minutes de ça, tu vois.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire, mais ce qui est
normal, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des trucs d'affilée, c'est-à-dire que il y a des scènes littéralement de 5 minutes où ce n'est que quelqu'un qui fait des recherches Google. C'est assez brillant, quoi, la manière dont
c'est fait, et c'est brillamment filmé, ouais, c'est fait en plus.
Oui, on s'emmerde pas du tout, on est carrément derrière les persos pour vouloir cette putain d'information, pour vouloir avoir quelqu'un au bout du téléphone.
Mais d'ailleurs, en plus, parce que tu sais qu'il réalise aussi le pilote de House of Cards, et il me semble c'est lui qui avait lancé la mode aussi des SMS qui s'affichent sur l'écran. Hein.
Exact.
Il me semble c'est lui qui avait lancé cette mode-là.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que ce sont des vraies questions en fait qu'il faut se poser aujourd'hui, et il peut y avoir une certaine flemme des réalisateurs, tu sais, à se reposer sur la vieille imagerie.
Oui.
Sur comment on filmait à l'époque, c'est-à-dire que la machine à écrire, l'imprimerie. Tu sais, c'est Renault d'imprimerie qui lance l'édition, tout ça. C'est-à-dire, c'est des images qu'on a en tête.
Ouais.
On sait. Et ensuite, tu vois les gens qui les vendent dans la rue. En fait, c'est des images qu'on a en tête, qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Et que, en fait, il y a assez peu de réalisateurs qui se posent des questions sur comment on filme les nouvelles choses.
Et d'ailleurs, mais aussi, il faut pas non plus tomber dans les néo-mises en scène à outrance, parce que justement, on parle des textos qui s'affichent ou des trucs comme ça, et de nous faire un peu trop de typographie pour un oui, pour un non. Hashtag John Wick 2, hashtag triple ouais, X, clair. Tu vois. ouais. Tu vois, enfin, bon, après, voilà, il faut être dans la mesure et dans la nuance et dans le talent. mais c'est clair que...
Mais c'est ça, en fait, il faut qu'il y ait des grands réalisateurs qui défrichent ça pour les médiocres, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais, effectivement, ce serait important, parce que mine de rien, là, quel film d'enquête on a eu récemment, là ? Mais qui se passe récemment aussi, tu vois ? Qui se passe de manière contemporaine.
Dans l'ère informatique, quoi, ouais. Tu veux dire.
Ouais, donc pas Spotlight, mais post-Spotlight, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup les gens se disent ah c'est trop difficile à filmer, du coup on en fait plus, tu vois, j'ai un peu peur
Snowden,
que ça.
Il y a Snowden quoi, mais
non, c'est pas vraiment de l'enquête, tu vois ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui
parce qu'on est du point de vue de celui qui ouais qu'il en fait tu voudrais du point de vue des point de vue des enquêteurs, tu
et
veux
c'est
dire,
ça le truc, c'est qu'en fait ouais. Quelque part est-ce que aussi si tu faisais un film où il y a des enquêteurs dans le monde moderne, tu ne donnerais pas envie à des gens d'enquêter, tu vois, d'être la star. Moi, quand je vois Robert Redford et Dustin Hoffman, je me dis putain, j'aimerais trop, aller mettre des coups de poignard dans le système, tu vois. Alors que si tu
sans,
le vois
sans,
pas,
sans rigoler, ce film a vraiment été à l'origine de milliers, de
mais,
milliers de vocations.
Mais
de
j'imagine bien, tout comme Top Gun a été à l'origine de.
Et d'ailleurs, il paraît qu'il le montre dans des écoles de journalisme aux États-Unis, certaines scènes, que c'est un espèce de truc au panthéon de. Être journaliste, c'est aussi être un peu comme Robert Redford ouais. Et Dustin Hoffman dans. Ouais.
pour te dire, j'ai quand même lu la critique de ce film sur le New York Times de l'époque, donc de 76. Ouais. Et qui était quand même assez dithyrambique, alors que quand même c'est le rival principal ouais. Du Washington Post, le New York Times, tu vois. Mais ouais. Le mec disait à quel point justement ils avaient trop nail la vie journalistique dans une salle d'un newspaper américain. Donc c'est quand même, du coup ça m'étonne pas qu'il le montre à des jeunes journalistes, parce que si c'est aussi bien décrit que ça, quoi.
Mais alors, si je ne m'abuse, après je sais pas ce que ça va donner, mais je crois qu'il y a un film dans les tuyaux sur l'affaire Cahuzac.
Ah ouais ?
Ouais.
Ouais, et que du coup, en fait, on verrait du point de vue d'un journal purement numérique en plus.
Ah ouais ?
Comment ça t'inquiète ? Ça peut être intéressant, si ouais, c'est mais... bien fait, ça peut être super. Quoi.
Voilà, après la question, ça va être est-ce que vraiment on va être purement du côté du journaliste ou est-ce que.
Alors je sais que c'est adapté du bouquin de. Je sais plus comment s'appelle le journaliste de Mediapart, tu sais qui a suivi l'enquête, mais je sais que c'est adapté de ce bouquin, donc ça sera. Théoriquement, ça sera ce point de vue qui sera adopté, quoi. Ouais.
Ok. Voilà. Bon, ce sera à voir, quoi. Ce sera le futur du film d'enquête. Est-ce qu'on clôt les hommes du président pour que vous puissiez me donner vos Blu-ray picks of the month ou vous avez d'autres choses à dire sur ce film? Bon moment, en tout cas. Moi, je le recommanderais à tout moment. Peut se regarder en pleine
élection,
sans problème.
Vraiment, parce qu'on a parlé ici, genre un film sérieux, etc. Mais ça se mange comme un bonbon, ce film, quoi. C'est vraiment un...
ouais, complètement. Moi, franchement, c'est une régalade. C'est-à-dire que... Tu sais, il y a des fois, j'ai pas trop envie de... J'hésite. Bah, tu sais, on en parlait avec Jean-Yves la dernière fois du Neverending Scroll qu'on a sur Netflix. Tu sais, à choisir un film à regarder parce que t'es peut-être pas dans la dans le mood qu'il faut pour regarder un truc. Tu veux un truc léger, mais tu vois. Et en fait, celui-là, ça passe crème tout en étant un très bon film, tu vois.
Ouais.
Donc,
Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a sorti un exemple Spotlight,
yep.
Qui est un très beau scénario qui suit dans les pas des hommes du président, mais par contre je trouve que la mise en scène de Pakula, elle est quand même un cran au-dessus de la mise en scène de McCarthy dans Spotlight, quoi.
J'ai trouvé sa gestion des plans assez ouf quand même. Il y a des choses que je trouvais belles, ouais.
Thank you.
regarder viteuf les sorties février-mars. On va faire ça. Ouais. De DVD Blu-ray et savoir qu'est-ce que vous achèteriez. Donc alors ou pour le découvrir ou pour ou parce que genre il vous a plu qui vous a plu et que vous voudriez l'avoir dans votre
vous achèteriez qui achète des Blu-ray de nos jours
en VOD ou en dématérialisé ou en qu'est-ce que tu as téléchargé quoi. Et c'est vrai que
moi,
c'est des
perso,
sorties moisies
j'ai
un peu,
pas mal de pics sur les pics à éviter à mettre à la poubelle, parce que je vais commencer par là, je vais demander aux gens de vandaliser les DVD de Jack Reacher 2, si
ah
c'est
ouais.
possible.
Genre, partez à la Fnac, mettez là, un c'est... petit peu de dessin, c'est brûler ça direct.
Non, mais c'est ouf. Et puis,
ne le faites pas, ne le faites pas. Hashtag légal.
Ouais, c'est,
on n'a jamais dit ça, on n'a jamais conseillé.
Ah oui, c'est vrai, il faut que ce soit pas d'incitation à la.
Je conseillerais parce que je l'ai vu très récemment et j'ai pas mal aimé. Je me suis mis à jour sur le Juste la fin du monde de Dolan.
Ok.
Que j'ai trouvé très bien. Même si moi, je suis vraiment désolé de dire ça, mais je trouve que Dolan est un peu overrated, il y a quand même des moments en fait de pure folie de mise en scène. Je pense notamment à la scène d'intro dans l'avion. En fait, on voit pas du tout qu'il est dans un avion. C'est assez fou. Et je partais très mal en fait parce qu'il y a dans ce film les deux actrices françaises que je déteste le plus, à savoir Marion Cotillard et Léa Seydoux. Donc c'était quand même compliqué. J'ai adoré Vincent Cassel en fait. Et voilà, donc j'ai passé un bon moment. Donc
épisode 29 de Juste la fin du monde, si vous voulez écouter Alice, Arnaud et moi en parler. Je crois que c'était ça. Hein. C'était ça l'équipe.
Ouais, c'est ça. Okay. Et comme je l'ai déjà dit, je pense pas du tout qu'il est overrated, Xavier Dolan. Moi,
du coup.
Le Dolan Freak, c'est.
Je conseille. Qu'est-ce qu'il y avait. Ah oui, je. Il y a pas mal de Blu-ray pour des soirées légères. Il y a pas mal de Blu-ray pour des soirées ice cream, non? Qu'est-ce que t'en penses à Reski?
Oui, et probablement, moi, mon pic en fait, de ça, c'est probablement un truc ice cream Buddy's Burger. Parce qu'en fait, j'avoue que le seul où je mettrais de l'argent pour l'avoir, ce serait la Maison des Ténèbres, quoi. Parce que j'ai pas. Trop envie d'avoir les autres. Donc voilà, qui sort. Ouais, donc il est sorti depuis le 15 février. Mais moi, c'est un film de semi-horreur thriller que j'ai beaucoup aimé. Et clairement.
Attends, t'es en train de parler de Don't Breathe là ?
Ouais, Don't Breathe, ouais.
Ah, ok, d'accord.
Et moi, c'est un film, moi, clairement, qui serait proposé dans une soirée film, tu vois, et que je reverrais.
Qui passe très bien dans une petite soirée horreur légère du samedi soir.
Exactement. Ouais, mais après, c'est-à-dire que je sais que Doug va nous sortir Mademoiselle, parce que je crois qu'il sort en mars. Mais, mais la question, c'est. Est-ce que je veux l'avoir ? Tu vois, parce que je vois qu'il y a même Tu ne tueras point. Que genre je voudrais voir, mais est-ce que je veux la voir, je sais pas. Tu vois ce que vous voyez la diff.
Bah du coup si tu lances une petite soirée 50 Shades of Grey, tu veux continuer avec un vrai bon film SM, bah du coup ça peut en fait être pas mal, hein, franchement.
Quoi, tu parles de quel film? Quoi, de Tune Tueras Point?
Mademoiselle.
Ah oui, d'accord.
Mademoiselle.
Oui, Mademoiselle. Oui, forcément.
Ça peut être vraiment pas mal. Et après du coup donc t'as la petite soirée horreur. La petite soirée Mademoiselle, je sais pas, mais il y a la petite soirée il y a la petite soirée Bridget Jones 3 aussi, parce que même moi je m'attends, moi
oh
franchement
franchement
je suis vraiment désolé de dire que pour un mini blockbuster comédie romantique numéro 3, il s'en sort très bien, et je suis vraiment désolé de le dire, mais
j'espère
juste pour Emma Thompson qui est trop exceptionnelle en docteur trop drôle.
Ça, ouais.
Franchement, je veux bien lui donner un miam à ce film, rien que pour Emma Thompson. Mais genre le reste, c'est tellement fait comme un film des années 80 par quelqu'un qui force tous les traits. C'était difficile le
et oui, mais
le
si tu veux le problème, c'est que moi maintenant je suis un homme marié, donc je suis obligé de concilier dans mon quota des comédies romantiques du dimanche soir, et si des gens sont dans ce cas là aussi, c'est un easy pick pour une soirée compromis.
Pour passer à mi-regarder le film, mi-être sur Facebook.
Exactement.
Camille, tu nous disais Ma vie de courgette, oui, c'est vrai, c'est ça. que ça t'intéresse.
Non, mais je l'ai pas vu,
quoi.
J'aimerais bien voir.
Tu l'as pas encore
pour
vu.
Pour l'instant, j'en ai vu aucun, mais j'aimerais beaucoup voir Ma vie de courgette.
D'accord.
Parce que j'habite en Belgique, en Flandre, et en fait, là-bas, malheureusement, les films sortent, les sous-titres, c'est que en flamand.
C'est vrai?
Non, tout est en flamand, les dessins animés sont jamais en langue originale. Du coup, d'accord. Quand je suis allée acheter ma place, c'était en flamand et sans sous-titres français. Du coup, je l'ai pas pu voir.
D'accord.
J'aimerais bien voir Brice.
C'est parce qu'elle comprend le flamand, mais la langue est tellement horrible à entendre que c'est difficile à supporter un film entier, quoi.
D'accord.
Sinon, j'ai bien aimé le Tekel de Todd Solondz.
Ah oui, qui sort aussi, tout à fait.
Ouais, ouais. Bah, Todd Solondz, c'est un mec qui fait des films très particuliers. Et le Tekel, ouais, c'est pas son meilleur, j'ai trouvé, mais juste pour le travelling sur le caca du Tekel, à un moment. Je sais pas si vous vous souvenez, avec une musique grandiloquente.
Il y a un Tekel qui a la diarrhée, il y a un très long travelling sur la diarrhée du chien.
Avec une musique classique, symphonique, magnifique.
C'est ça.
Je l'ai pas vu ce film, ça parle de quoi? Je sais qu'il était.
Bah, c'est un Tekel qui va de. On suit plusieurs personnages qui s'occupent du Tekel.
D'accord.
Il y a des personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et puis il y a des acteurs vraiment type, enfin des acteurs très particuliers, genre Danny DeVito. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Greta Gerwig.
Enfin tous ces acteurs très très originaux.
D'accord, genre on suit des foyers différents en fait par le Tekel, c'est ça?
Voilà.
Ok.
C'est ça.
Ok, ça a l'air.
Généralement plutôt petit bourgeois et c'est une satire.
Ça a l'air sympa ça. Ouais, faudrait que je vois ça. Et du coup rien d'autre. Ou un film à jeter, peut-être, Camille, comme Jean-Yves avec Jack Reacher 2.
Mal de pierre.
Voilà. Mal de pierre? Il était pas bien?
Ouais, ça m'a énervé.
Qu'est-ce qui t'a énervé dans ce film?
Tout. Je trouve ça consensuel et propre et lisse.
Pas assez de travail.
C'est très très beau de faire un. Ouais, c'est ça. C'est très beau de faire un portrait sur une femme. Je suis adorée regarder des films avec des femmes dans le rôle principal. Je pense parce que je suis une fille et puis parce que puis je trouve que Margot Gauthier est une super actrice hein, d'ailleurs, mais elle est super belle, mais
est-ce que c'est elle, est-ce non, que c'est Nicole Garcia fait. Qui fait aussi le film qui va sortir avec Kassovitz et Florence Foresti, ou est-ce qu'elle ne fait qu'y jouer? Je crois que c'est
ah, elle joue non, dedans, elle joue dedans, elle
ne
le réalise pas. Ok, non, c'est pour savoir si.
Je sais plus qui a réalisé ce film.
Parce que j'ai l'impression que Nicole Garcia, ces derniers temps, tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est pas si bien que ça, quoi, regardez.
Mais j'ai jamais beaucoup aimé ses films, en fait, en tant que réalisatrice, hein, Nicole Garcia.
Je trouve que c'est une bonne actrice, par contre. Elle est plus intéressante.
Je me souviens d'un balcon sur la mer qui était pas mauvais. Genre le gars le plus haut compliment qu'il puisse donner, tu sais, c'était pas mauvais.
C'était pas mauvais.
Mais après les autres, c'est genre, ouf, putain.
Mais alors, ce qui est marrant, c'est justement, il y a un comparatif, c'est elle a adapté un bouquin d'Emmanuel Carrère qui s'appelle L'Adversaire.
Ah ouais.
Ah, ça me dit quelque chose.
Et
ça.
En fait, il y a deux adaptations de ce livre, l'officielle par Nicole Garcia, il y en a une officieuse qui raconte la même histoire par Laurent Canté. Et en fait, la version de Canté est vraiment meilleure, quoi.
C'est sur ce gars qui a tué sa famille là, non? C'est ça?
Ouais,
c'est
sur un faux médecin, qui a fait croire à son entourage qu'il était médecin, et au moment où il est sur le point d'être découvert, il a tué toute sa famille.
Attends, comment il s'appelle le film de Carré sur ça?
De Canté.
De Canté, pardon.
De Laurent Canté, c'est L'Emploi du temps.
D'accord. Genre, je fais un petit quick research, parce que moi j'ai Google, j'ai pas besoin de passer des coups de fil.
C'est hallucinant l'histoire de ce gars qui, moi je me rappelle très bien voir un doc sur ce gars qui en fait apprenait des cours de médecine sur des aires d'autoroute, tu sais, il apprenait des trucs par cœur de médecine, il ressortait ça en repas de famille, c'était enfermé dans un mensonge sur des années, c'est genre je sais pas combien d'années il s'est enfermé là-dedans.
Mais des 20 ans, c'est 25 ans, je sais pas, un truc
c'est, de la folie, quoi. C'est genre le catch me if you can du pauvre, quoi, tu sais, parce que en fait il ne faisait croire ça qu'à sa famille alors que l'autre il a passé le barreau tellement il était...
t'as vu des films au ciné cette semaine à Reski depuis Logan ou pas?
Absolument pas. Écoute, je suis reparti voir Logan une troisième fois. Non, je rigole. non, effectivement,
toi, Arnaud,
pas de ciné, mais il va falloir que j'aille voir Split d'ailleurs.
Ouais, moi j'ai.
Allez voir Grave, le premier film de Comment elle s'appelle ?
Julia Ducournau.
Julia Ducournau.
Ouais, ça sort le 8. Ah, mais c'était hier le 8.
Non, ça sort la semaine prochaine.
Ah, parce que moi j'habite en Belgique et elle est déjà sortie, pardon.
D'accord, ok. Putain, d'où ça sort en Belgique ?
On va en faire un épisode d'ailleurs.
Ouais. Mais attends, je comprends pas. Camille, t'es en train de me dire que c'est une réalisatrice française ? Le film sort d'abord en Belgique ? Qu'est-ce qui se passe ?
Bah ouais, je pense que le film a été tourné intégralement à Liège, ça doit être pour ça. Ah, d'accord. Et puis il y a une coproduction belge aussi, alors ça doit être...
D'accord. Ils ont fait leurs petites astuces. Moi j'ai pas vu spécialement de nouveaux films au ciné. Vous, quelque chose à dire? Un petit big up grave du coup pour Camille. Qu'est-ce que t'as aimé dans un film d'horreur au cinéma?
C'est un film sur le cannibalisme. C'est hyper bien, quoi. Et puis c'est vrai parce que je suis allée à une séance où la réalisatrice était là. Et elle expliquait que ce qui lui a donné envie d'écrire ce film sur le cannibalisme, c'est qu'elle dit quand on mord quelqu'un, elle dit il y a toujours ce moment où on a envie d'aller vraiment profond, d'essayer de toucher la chair. Elle dit à partir de là j'ai écrit ce film. Et franchement, faut le voir, quoi. C'est incroyable, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est étudiante qui va être vétérinaire. Elle a 16 ans, elle est surdouée, elle rentre déjà en école de vétérinaire. Sa sœur a fait des études de vétérinaire, ses deux parents sont vétérinaires. Et elle se retrouve dans cette espèce de bâtiment, une architecture des années 70, très flippant au milieu de nulle part. Et là, après, c'est incroyable.
D'accord. Mais ceci dit, un film interdit, il est bien interdit au moins de 18 ans, non ?
16 ans, je crois.
Que 16, quel dommage. C'est dommage, moi je m'attendais à revoir un Martyr, tu sais, parce que Martyr, il était interdit au moins de 18 ans, il me semble.
Ouais.
Ouais.
Ah ouais ?
Ouais. Je me souviens que c'était assez spécial. Rappelle, ouais. D'accord, c'est quand même gore, on est d'accord, on va pas s'emmerder.
Ouais, ouais. on peut aller, moi j'irai le samedi, ça.
Bah ouais, carrément.
Un truc bien dégueulasse.
Ouais, c'est cool. Tellement rare au ciné en plus, donc ça vaut le coup. Et Duck, un film que t'as vu récemment au ciné ou pas?
Un film pas mal que j'ai vu, c'est 20th Century Woman.
Ah, tu l'as vu finalement?
Mike Mills, ouais, je l'ai vu. Qui est je pense pas que c'est un film qui me restera jusqu'à la fin de l'année, quoi, mais c'est assez intéressant. C'est l'histoire d'un adolescent qui est à la fin des années 70, qui est élevé par des femmes, c'est-à-dire sa mère, leur colocatrice et une adolescente un peu plus âgée que lui dont il est amoureux, et c'est sur ça, et ça parle vraiment de la fin des années 70. Du début du mouvement punk, tu vois, comment on est passé du hippie au punk, la mère qui est un peu dépassée par tout ce qui se passe, et comment ce gamin grandit dans cet environnement-là. C'est très bien joué.
Ouais. Est-ce que Annette Bening mérite sa nomination aux Oscars ou pas?
Elle était nommée aux Oscars?
Ouais, il me semble, hein, non? Il me semble, non?
Je sais pas, peut-être.
Je crois,
ouais. Emma Stone et tout ça, enfin voilà. D'ailleurs, c'est Emma Stone.
Amy Adams.
C'est Emma Stone qui a gagné, on a oublié de le dire, mais enfin, tu vois, autant j'ai beaucoup aimé La La Land, autant jamais je donnerai un Oscar à Emma Stone pour ce film, quoi. Enfin, ça me semble bizarre, quoi. Elle fait...
Oui, après on en revient à la discussion de la dernière fois, mais qui mérite son Oscar, quoi, j'ai envie de dire.
Casey Affleck. Il mérite.
Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est toujours subjectif. C'est ou qui ne le mérite pas. Enfin, c'est très difficile.
Emma Stone.
Et tu sais, c'est trop marrant parce qu'il y avait Amy Adams qui était nommée aussi.
Ah ouais.
Et en fait, c'est trop marrant parce que j'ai écouté un podcast où il y a justement, pour en revenir à ce côté de Robert Redford qui joue trop bien le gars au téléphone. Et effectivement, Amy Adams, ça joue vachement bien la meuf qui lit un livre dans Nocturnal Animals.
Ouais.
Et en fait, il y a le journaliste anglais qui croise Amy Adams. Il veut la complimenter sur ça et il y a un quiproquo parce qu'elle croit qu'il la prend pour une conne, en fait. Il lui dit: ah, vous jouez vachement bien la meuf qui lit. Et elle dit: pourquoi? Parce que j'ai l'air conne, en fait. Et du coup, le gars, il s'embrouille, il dit: mais non, mais c'est parce que vous lisez bien. Et du coup, elle se barre, il est dégoûté, le mec.
Mais d'ailleurs, en plus, elle a été nommée pour Arrival et pas pour Nocturnal Animals.
Non, pour les
en
deux,
même temps, elle fait pas grand chose dans Nocturnal Animals.
Attends, tu peux pas être nommé pour deux films. Sinon, t'as deux places, t'as deux fois plus de chance. Ce serait trop bien.
Mais non, mais moi, ce que j'avais entendu, alors à confirmer, mais c'est qu'elle était nommée dans deux films et du coup, ça séparait ses votes en deux. J'ai compris.
Je suis même pas sûr qu'elle ait été nommée une fois, en fait.
Ok, peut-être. Alors, je me...
Attends deux secondes. Amy Adams, on va y aller tout de suite, hein, puisqu'on est dans la fameuse ère Google.
Non, mais je suis à peu près sûr que c'était pour Arrival, ce qui me semble bizarre. Parce que, parce que c'était mieux.
Ok, elle est nommée pour ni l'un ni l'autre.
Quoi ?
Ah, ok. Donc, rien à voir.
Mais je comprends pas alors.
Rien à voir.
Elle est nommée pour... Elle était pas nommée, donc c'est ça que t'es en train de me dire, t'es sûr ?
Ah, exactement.
C'était, alors c'était peut-être pour les, du coup, peut-être qu'elle était nommée deux fois pour les Golden Globes.
Ah,
possible.
Exact.
C'était peut-être les Golden Globes.
Non, une seule nomination aux Golden Globes pour Arrival.
Pour Arrival, ok.
D'accord. Mais attends, ah, mais c'est, tu sais ce qui me fait me tromper, c'est la fameuse vidéo Hollywood Reporter où ils ont fait un table read, enfin pas un table read, un around the table ou je sais pas quoi avec des actrices. Et il me semble qu'il y avait Amy Adams avec. Avec Isabelle Huppert et des gens comme ça. Et d'ailleurs, je sais pas du tout si ce que j'ai dit est vrai et que Annette Bening était dedans. Ouais, d'ailleurs, non, en fait, Annette Bening n'est tout simplement pas du tout nommée, en fait. Ouais, effectivement. J'ai dit de la merde. Hashtag.
Donc voilà, on
retrait.
Est parti sur 5 minutes. Vous pouvez effacer de votre mémoire ces 5 minutes. Okay.
Mais nous, on garde
complètement
tout.
Useless.
C'est comme ça qu'on sait qu'on s'est trompé et que c'est du vrai journalisme, tu vois. On va chercher
nous,
sur Google.
Au moins, on apprend de nos erreurs et on arrête le podcast tout de suite.
Exactement.
C'est le dernier épisode. Nous sommes trompés.
Nous avons décidé de nous retirer de la vie podcastale. d'autres choses à rajouter de votre vie de tous les jours ? Quelque chose ? Acheter de la chocolatine ?
Moi, j'ai vu Lion.
Hein ?
De façon anecdotique, du coup, je suis assez content parce que je suis pas allé au cinéma le voir, mais j'ai eu une chance incroyable, c'est que c'est ma sœur qui m'a prêté une copie DVD presse, en fait. Ça, c'est rigolo. C'est un truc trop marrant. C'est une pote à ma sœur qui a emménagé, qui habite aux États-Unis, et qui a emménagé chez une meuf qui bossait à la Paramount. Et ce qu'il y a, c'est que cette meuf a jamais fait le changement d'adresse. Du coup, cette pote à ma sœur, elle reçoit des copies presse chez elle comme ça.
Oh, mais c'est trop bien.
Bon, bref, et du coup, on s'est maté Lion. C'est une petite crème glacée, en fait, super anecdotique.
C'est
marrant
parce
que...
C'est le film à Oscar, quoi. C'est le film qui
crie
je veux des Oscars, quoi.
Clairement. Et alors, c'est marrant parce que le film, clairement, a une esthétique de pub pour iPhone et de pub pour parfum, tu vois.
Et soit dit en passant, c'est une pub géante pour Google Earth.
Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est une histoire qui est extraordinaire, puisque ça raconte un enfant indien qui se perd et littéralement de 5 ans, et puis qui va finir adopté par une famille australienne et qui, 25 ans après, décide de repartir sur les traces de sa famille en Inde, tu vois. Donc c'est une histoire plutôt extraordinaire, mais en même temps, c'est tellement fait de façon anecdotique et insipide que t'as oublié le film une heure après. Et du coup, ce qui est marrant, c'est la conclusion un peu cynique, c'est que pour jouer le gars indien qui a une trentaine d'années ou qui doit avoir 25 ans, ils ont pris un espèce de beau gosse, tu sais.
Dev Patel.
Tu te rends compte, en fait, à l'arrivée, t'as des, tu sais, le truc classique de on montre les vraies images et tu te rends compte que le gars est tout sauf un beau gosse dans la vraie vie et qu'ils ont été obligés de prendre un BG
Est-ce qu'on peut en profiter pour parler de la bogossification de Dev Patel, qui est quand même passé du physique d'ado geek avec les oreilles décollées à une espèce de beau gosse.
Ouais. Pour ceux
je sais pas quand ça s'est passé, mais
pour ceux qui suivent les posters de l'appart de Arnaud, il a retiré tous ses posters de Marion Cotillard, il a mis que des posters de Dev Patel. Nu qui montre ses pecs et tout. d'ailleurs, il parle de Dev Patel pour l'adaptation live action de Aladdin. Donc, je sais pas.
C'est vrai, ils nous les font tous, les versions live des Disney. Il me tarde de voir Rox et Rookie. Je me demande qui va jouer Rox.
Alors, moi, je pose la question, est-ce que c'est pas du Indian washing, tu vois ? Parce qu'ils vont prendre un Indien pour jouer un Persan pour Aladdin. Donc,
alors, donc, cela dit, dans le conte original Aladdin, il me semble que ça se passe en Chine.
Le conte original de qui ?
Là,
c'est Disney qui fait comme le Livre de Jungle. C'est-à-dire qu'ils vont rechanter les mêmes chansons, hein, je crois.
Oui, mais donc eux, c'est clairement, ils devraient prendre un acteur irakien, en fait.
Oui, c'est ça, exactement ce que je dis. Ou alors ne plus nous faire chier avec le whitewashing de Tilda Swinton sur Doctor Strange, tu vois. Mais voilà. Ouais, non, Lion, du coup, tu me donnes moins envie de le voir, tu vois. Genre.
Mais après, ça se regarde, il est pas horrible.
Non,
comme
non,
film,
ça,
quoi,
non, mais clairement, c'est à dire que je l'ai regardé. Alors, j'étais très mal à l'aise parce que ma lovely wife, elle avait passé une mauvaise journée. Donc, à partir de 5 minutes du film Forward, elle a fait que pleurer tout le film, tu vois.
Donc, c'est le meilleur film du monde.
J'étais un peu mal à l'aise parce qu'en fait, il se trouve que c'est assez fou. L'enfant qui joue le petit garçon de 5 ans, il ressemble vraiment énormément au neveu de Sophie. Et c'est assez marrant, quoi. Et donc, du coup, elle se disait « Et si c'était lui qui se perdait dans... » Donc, du coup, non, mais voilà, Mais c'est anecdotique, c'est pas nul en fait, tu vois, mais c'est clairement Oscar bait à fond, quoi, tu sais, la belle histoire, l'adoption c'est cool, le monde est beau, on s'aime tous, etc., quoi.
Ouais, d'accord. Ok. Très bien. Bon, bah, je pense que je vais terminer ce podcast, quoi. Je vais, par executive action, je vais dire que c'est terminé.
Je vous fais tous des poutous.
Abonnez-vous au podcast, allez aimer la page sur Facebook, allez nous mettre un commentaire sur iTunes. Donc faites-le et on vous dit à très vite, à la semaine prochaine pour un épisode sur Grave qu'on aura tous vu et on aura eu tous très peur au cinéma. Merci à tous.
Merci.
Merci.
Bien aimé.
Et je vous dis à la semaine prochaine alors.
Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
Ciao.
Salut.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.